Mes chers compatriotes, ce soir, c'est la dernière fois que je vous présente mes vœux comme président de la République. C'est pour moi un moment d'émotion et de gravité. Je veux le partager avec vous, Françaises et Français de toutes origines, de toutes convictions, de toutes confessions, de métropole et d'outre-mer. Je veux d'abord vous parler de ce que vous avez enduré cette dernière année lorsque notre pays a été frappé par de terribles attentats. Celui de Nice, le 14 juillet dernier, mais aussi celui de Magnanville, de Saint-Étienne-du-Rouvray. Je pense en cet instant aux victimes, à leurs familles, aux blessés qui souffrent dans leur cœur et dans leur chair. Je sais aussi l'inquiétude qui est toujours la vôtre face à cette menace terroriste qui ne faiblit pas, comme hélas s'en témoigne ce qui s'est produit à Berlin ces derniers jours. Il me revient donc, avec le gouvernement de Bernard Cazeneuve, d'assurer votre protection. J'y consacre tous les moyens nécessaires. Et je veux rendre hommage à nos policiers, à nos gendarmes, à nos militaires, qui se dévouent jusqu'au sacrifice pour assurer notre sécurité. Face aux attaques, vous avez tenu bon. Les terroristes voulaient vous diviser, vous séparer, vous effrayer. Vous avez montré que vous étiez plus fort, rassemblé, solidaire et uni. Vous n'avez pas cédé aux amalgames, aux stigmatisations, aux vaines querelles. Vous avez continué à vivre, à travailler, à sortir, à circuler, à chérir la liberté. Vous pouvez être fier de vous. Mais nous n'en avons pas terminé avec le fléau du terrorisme. Il nous faudra continuer à le combattre. À l'extérieur, c'est le sens de nos opérations militaires, au Mali, en Syrie, en Irak, où je me rendrai après-demain pour saluer nos soldats. Le combattre aussi à l'intérieur, pour déjouer des attentats, mettre hors d'état de nuire les individus dangereux et prévenir la radicalisation djihadiste. Mais soyez certains d'une chose, que de cette lutte contre la barbarie, notre démocratie sortira victorieuse. Mes chers compatriotes, 5 années de présidence m'ont forgé une expérience que je veux vous livrer ce soir. La France est un pays admiré, attendu et même espéré partout dans le monde. C'est sans doute l'héritage de notre histoire, de notre langue, de notre culture, mais c'est surtout le respect qu'inspirent nos valeurs, notre mode de vie, notre attachement pour la liberté. C'est ce qui explique que lorsque nous sommes attaqués, le monde entier est à nos côtés. C'est ce qui donne du crédit à la parole de la France pour porter de grandes causes. Je pense à la lutte contre le réchauffement climatique. Rappelez-vous, c'est à Paris qu'un accord historique a été conclu. Vous en voyez avec les pics de pollution l'impérieuse nécessité surtout de le mettre en œuvre. Alors je vous l'affirme, la France ne laissera personne, ni aucun État, fût-il le plus grand, remettre en cause cet acquis majeur de la communauté internationale. Face aux puissances, les anciennes comme les nouvelles, la France doit réaffirmer son indépendance. Dans un environnement international plein d'incertitudes, avec un climat de guerre froide, peu de pays ont par leur défense, c'est-à-dire leur armée, et la politique étrangère, la capacité de décider souverainement. Nous l'avons. Et nous devons tout faire pour préserver cette liberté stratégique. Parce que la France a un rang et un message à défendre. Elle n'accepte pas les violations des droits humains les plus élémentaires. L'utilisation des armes chimiques, les massacres de populations civiles comme à Alep, les persécutions des minorités religieuses, la soumission de la femme. La France n'admet jamais le fait accompli, la mise en cause des frontières. Elle cherche partout par le dialogue des solutions, y compris au Proche et au Moyen-Orient. La France, elle se bat pour le développement de l'Afrique et la réduction des inégalités, car elle sait que là se situe le règlement des migrations. Voilà ce que signifie être français aujourd'hui. Et je voudrais que vous puissiez là encore en être fier. Mes chers compatriotes, tout au long de mon mandat, je n'ai eu qu'une priorité, redresser notre économie pour faire baisser le chômage. Je revendique les choix que j'ai faits. Les résultats arrivent plus tard que je ne les avais prévus, j'en conviens, mais ils sont là. Les comptes publics ont été rétablis. La sécurité sociale est à l'équilibre. La compétitivité de nos entreprises a été retrouvée. La construction de logements a atteint un niveau record. L'investissement repart. Et surtout, surtout, le nombre de demandeurs d'emploi baisse enfin depuis un an. Et parallèlement, je l'ai voulu ainsi, le progrès social n'a pas arrêté sa course. De nouveaux droits ont été ouverts pour les salariés, pour la formation tout au long de leur vie, pour l'insertion des jeunes, pour l'accès de tous à la santé. Il reste encore à faire, mais le socle est là, les bases sont solides. Ces succès, ce sont les vôtres. Vous devez vous en emparer. Non pour nier les difficultés, elles demeurent. Occulter les souffrances, elles sont là. Ou repousser les choix, il y en aura à faire. Mais pour prendre conscience de vos atouts, de vos talents, de vos capacités, de vos réussites. Notre propre principal adversaire, c'est le doute. Vous devez avoir confiance en vous. Surtout face aux défis qui nous attendent. En cette fin d'année, ce que nous croyons acquis, parfois pour toujours, la démocratie, la liberté, les droits sociaux, l'Europe et même la paix, tout cela devient vulnérable, réversible. On l'a vu au Royaume-Uni avec le Brexit et aux États-Unis lors de l'élection du mois de novembre. On le voit sur notre continent à travers la montée des extrémismes. Il y a dans l'histoire des périodes où tout peut basculer. Nous en vivons une. Dans à peine 5 mois, vous aurez, mes chers compatriotes, à faire un choix. Il sera décisif pour la France. Il y va de son modèle social auquel vous êtes attaché, car il garantit l'égalité de tous face aux aléas de la vie, et notamment la santé. Il y va de ses services publics essentiels, et notamment l'école de la République, là où beaucoup se joue, et notamment pour la jeunesse, qui est notre espérance. Il y va aussi de la capacité de notre pays à saisir les grandes mutations que sont la révolution numérique et la transition énergétique, pour en faire des facteurs de croissance, de bien-être, d'emploi, et non des éléments supplémentaires de précarité et d'instabilité. Il y va enfin de nos valeurs. La France, elle est ouverte au monde. Elle est européenne. Elle est fraternelle. Comment imaginer notre pays recroquevillé derrière des murs, réduit à son seul marché intérieur, revenant à sa monnaie nationale, et en plus, discriminant ses enfants selon leurs origines? Mais ce ne serait plus la France. Voilà les enjeux majeurs. Les débats qui s'ouvrent les éclaireront. Mais dans ces circonstances, le rôle des forces et des personnalités politiques est immense. Elles doivent être à la hauteur de la situation, faire preuve de lucidité, éviter de brutaliser la société, et puis aussi écarter la dispersion pour certaines de nos forces politiques qui entraîneraient d'ailleurs leur élimination. Mais c'est vous, quoi qu'il arrive, qui aurez le dernier mot. C'est pourquoi votre responsabilité est aussi grande. Et la France compte sur vous. Pour ma part, jusqu'au dernier jour de mon mandat, je serai pleinement à ma tâche pour servir notre pays. Agir pour la France, se battre pour la justice et le progrès, c'est l'engagement de toute ma vie. Je n'y renoncerai jamais. J'ai partagé avec vous des épreuves et des souffrances, mais aussi des joies et des bonheurs. J'ai eu l'immense fierté d'avoir été à la tête d'un peuple debout, fidèle à lui-même et à sa vocation universelle. C'est un lien indéfectible qui nous unit et que rien n'altérera. C'est fort de cette conviction que je vous adresse du fond du cœur mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Vive la République, vive la France.
Voilà les derniers vœux de François Hollande, président de la République. Un petit peu plus de 9 minutes. Bonsoir Cyril Graziani.
Bonsoir Estelle.
Alors, des vœux conformes à ce qu'on attendait sur le fond, retour sur l'année 2016, terrorisme, bilan des réformes et les enjeux pour 2017. Voilà en gros, et avec une grosse annonce également.
Oui, président François Hollande, combatif, qui en veut encore et qui sera à la tâche jusqu'au dernier jour. Vous disiez donc grosse annonce, puisqu'il a d'abord rendu hommage aux soldats, il a rendu hommage aux soldats soldats qui sont en France, qui sont aussi dans le monde. Et il se rendra par ailleurs en Irak lundi pour saluer ces soldats. Sinon, à retenir, on l'avait dit de toute façon, François Hollande voulait d'abord... reprendre un petit peu, faire le bilan de l'année 2016. Les Français ont beaucoup souffert, on sait, par rapport à tous les attentats. Il a égrené tous les attentats qui ont endeuillé le pays en cette année 2016. Ensuite, François Hollande, il a fait une petite attaque, c'est assez intéressant, sur la COP21. Il a évidemment remis sur la table ce bilan, parce que dans son bilan, il restera la COP21, l'accord trouvé à Paris. Et il a dit une chose qui est très intéressante: la France ne laissera personne, n'importe quel État, fût-il le plus grand, le remettre en cause. Ça, ce message est adressé directement à Donald Trump, qui sera le président des États-Unis en 2017. François Hollande a aussi expliqué que sa priorité, ce serait redresser l'économie pour faire baisser le chômage jusqu'au bout. Les résultats arrivent plus tard que je ne les avais prévus, j'en conviens. Surtout, et ça il l'a bien mis en avant, il a bien dit en plus, surtout, c'est une forme verbale que François Hollande utilise rarement, comme ça, ces deux mots accolés. Il l'a redit après en plus, c'est assez curieux. Le nombre de demandeurs d'emploi baisse depuis un an, ça évidemment il ne va cesser de le mettre en avant. Et puis évidemment, il a quand même eu un petit mot par rapport à l'échéance présidentielle qui arrive en mai 2017, à laquelle il ne participera pas. Dans à peine 5 mois, vous aurez à faire un choix décisif, a-t-il dit ce soir aux Français. Et là, il a égrené quelques petites priorités. Il y va de son modèle social, de ses services publics, de la capacité de notre pays à saisir les grandes mutations. Là, on sent clairement qu'il vise François Fillon. Mm-hmm. Et puis, quand il parle des valeurs, la France, elle est ouverte au monde, fraternelle. Elle n'est pas recroquevillée derrière des murs, discriminant des enfants selon leurs origines. Là, très clairement, il vise Marine Le Pen et il a une petite allusion en disant que si le FN arrivait en 2017 au pouvoir, ce ne serait plus la France. Donc François Hollande, très combatif, malgré le fait qu'il ne sera pas candidat. On a retrouvé finalement un président qui en a encore, d'une certaine façon, sous le pied. On sent, il y a comme une volonté, qu'il aurait peut-être voulu y aller, mais il a décidé le contraire. Donc là, on a vraiment senti que le président François Hollande serait président jusqu'au bout et qu'il combattrait jusqu'au bout.
Alors quelques pics, vous l'avez dit, pour l'extrême droite et la droite de François Fillon. Avec nous au téléphone, Valérie Boyer, députée de Marseille, porte-parole du Parti Les Républicains. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, de ces derniers vœux de François Hollande, on l'a dit, combatif, François Fillon dans la ligne de mire du président de la République. Une attaque finalement conforme à vos attentes.
Écoutez, moi j'ai pas trouvé quelqu'un de particulièrement combatif, dans la mesure où il est tellement impopulaire qu'il a dû renoncer à se présenter. C'est quand même du jamais vu sous la Ve République. Et le message qu'on a aujourd'hui tient davantage du testament que d'un message de vœux. Les Français n'attendent plus rien de François Hollande. Ils attendent aujourd'hui l'alternance. Et quant à se réjouir des chiffres du chômage, j'ai trouvé ça un petit peu cynique, puisque la baisse du chômage depuis 3 mois est une bonne nouvelle, ça c'est évident. Mais elle ne doit pas nous faire oublier qu'il y a 500 000 chômeurs de plus qu'en 2012, en catégorie A, et 4 ans et demi de hausse et 3 mois de baisse. Ben, je trouve que le bilan est très douloureux pour les Français. Et il ne faut pas oublier que l'amélioration ne concerne qu'une catégorie de chômeurs. Donc je dirais que les résultats sont d'autant plus difficiles pour les Français, d'autant plus médiocres, que François Hollande niait l'existence de la crise de 2008 à laquelle Nicolas Sarkozy et François Fillon ont dû faire face. Et lui, il a connu quand même une conjoncture très favorable, du pétrole moins cher, des taux d'intérêt très bas, il n'en a absolument pas tenu.
Valérie Boyer, quand François Hollande parle du modèle social des services publics, il égratigne très sévèrement François Fillon. Mais ça, c'est une critique récurrente depuis quelques semaines. Depuis que François Fillon a été désigné candidat pour le Parti Les Républicains, vous entendez ça?
Oui, mais je pense qu'on entend des gens qui critiquent sans parler du programme de François Fillon.
500 000 fonctionnaires en moins.
Sur ce sujet. Oui, 500 000 fonctionnaires en moins. C'est sur 5 ans. C'est moins de 2% par an, hein, et c'est ne pas remplacer les fonctionnaires qui partent à la retraite. Moi, ce que je constate par rapport au modèle social prôné par François Hollande, quand on veut défendre le modèle social français, ce modèle social français, il prend l'eau de toutes parts, parce que quand on a 6 millions de personnes au chômage total ou partiel, et un chômage de longue durée, un endettement qui est record, qui pèse sur les finances de l'État, la sécurité sociale qui est surendettée, des agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre de leur travail, eh bien le modèle social, il prend l'eau. Donc il faut le repenser aujourd'hui pour faire en sorte qu'on sauve ce à quoi nous tenons. La sécurité sociale en fait partie, mais pour cela, il faut absolument qu'on se relève les manches. Et c'est pas avec des solutions d'il y a 70 ans, avec des incantations, comme vient d'en faire François Hollande, qui pleure un petit peu sur son bilan raté, qu'on va y arriver. Donc je pense qu'il est temps de faire profiter aux Français des solutions qui ont marché ailleurs et que les socialistes ne veulent pas mettre en place par pure idéologie. Et je ne veux parler, j'ai pas encore parlé de la sécurité, hein, qui a quand même été un point particulièrement lourd du bilan de François Hollande. Et j'en veux pour preuve, ces derniers jours, l'incroyable silence du gouvernement sur la cavale d'Anis Amri, avec un nouveau ministre de l'Intérieur qui s'étonne qu'on lui pose la question.
Valérie Boyer, oui. François Fillon, lui, tout à l'heure, a fait presque devancer le président de la République dans ses vœux. Il les a prononcés sur les réseaux sociaux. Il a notamment plaidé pour une politique implacable face au totalitarisme islamique. Et puis, il a lui aussi devancé les critiques éventuellement de François Hollande en disant que le mur des critiques ne nous arrêtera pas. Là aussi, il y a une radicalité.
Je pense qu'il y a une détermination chez François Fillon, il y a un programme, il y a une volonté. Cette volonté, elle a été saluée par les Français qui se sont déplacés en masse à cette primaire, hein, puisque plus de 4 millions d'électeurs, c'est quand même pas rien. Et puis, il y a surtout une crédibilité chez François Fillon que les Français lui accordent, d'ailleurs, quel que soit leur bord politique. Et parce que François Fillon, c'est une cohérence personnelle, c'est une cohérence programmatique. Et puis, c'est surtout quelqu'un qui montre le cap. Il regarde pas dans le rétroviseur, comme vient de le faire François Hollande. C'est une, j'espère, notre futur président de la République qui nous montre comment faire pour que la France sorte de cette crise, pour qu'il y ait moins de chômeurs dans notre pays. Je rappelle quand même que la priorité de François Fillon, c'est de lutter contre le chômage. Et l'autre priorité, c'est bien évidemment de faire en sorte que la sécurité des Français soit assurée. Et c'est la raison pour laquelle il a toujours pris des positions, j'allais dire, courageuses, où seuls les intérêts de la France comptent sur la scène internationale.
Merci
donc
beaucoup,
aujourd'hui,
Valérie
je pense que
Boyer.
Les atermoiements de François Hollande sur la scène internationale pèsent très très lourdement.
Merci Valérie Boyer,
Français,
et porte-parole du parti Les Républicains.
Et tous les Français qui nous écoutent.
Et ça, à vous aussi.
À vous aussi également. On a également en ligne avec nous Valrande Saint-Just, président du groupe Front National au Conseil Régional d'Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, François Hollande, dans son allocution, je le cite, une victoire du FN à la présidentielle, ce ne serait plus la France, l'attaque est très claire.
Oui, c'est l'attaque d'un socialiste totalement démonétisé, qui a tout raté, à tel point qu'il ne peut même pas se représenter, qu'il a dû prendre la décision de ne pas défendre son bilan, son mandat, de ne pas se représenter. Alors, des attaques de la part de tels personnages, ce n'est pas extrêmement important. En plus, c'est une sorte d'insulte de sa part. 30% déjà de Français qui votent pour le Front National, venir dire que ça ne serait plus la France, non, c'est avec lui que déjà, ça n'est pas ou ça n'est plus la démocratie.
Valrande Saint-Just, une petite question d'actualité. Marine Le Pen, qui est donc candidate à la présidentielle, emprunterait pour sa campagne environ 6 millions d'euros à son père. Est-ce que vous confirmez ?
Je croyais que je devais répondre à François Hollande et à
ses vœux. C'est l'actualité également.
Ah oui, bien entendu. Écoutez, de toute façon, elle n'emprunte pas à son père. Je pense qu'il faut être précis, surtout quand on est journaliste. Elle n'emprunte pas à son père, elle emprunte à une association qui s'appelle Cotelec. Et l'argent de cette association, en réalité, c'est l'argent du Front National. Les prêteurs et les donateurs à Cotelec ont toujours prêté ou donné pour financer les campagnes des candidats du Front National. Donc il est tout à fait normal, et ça ne pouvait pas être autrement, que cet argent vienne financer les campagnes des candidats du Front National.
Pour en revenir au vœu, Valrande Saint-Just, oui. Quand François Hollande parle de nos valeurs, des valeurs de la France, il égratigne le Front National en l'accusant de parler, il cite recroquevillé derrière des murs, discriminant des enfants selon leurs origines. C'est un peu ce que Marine Le Pen avait promis. Elle avait proposé justement que des enfants, pour les enfants étrangers, la scolarisation pour les enfants étrangers.
Il y a toujours eu dans un pays comme la France et dans toutes les démocraties, des différences faites entre ceux qui ont la nationalité du pays, en l'espèce la nationalité française, et ceux qui ne l'ont pas. Vous pouvez appeler ça la discrimination. Non, ce sont des différences qui sont inscrites dans la loi ou qui peuvent en plus être inscrites dans la loi. Ce qui est extraordinaire de la part de François Hollande de faire croire qu'avec le Front National, avec Marine Le Pen, la France serait réduite à son seul marché intérieur, c'est une caricature absolument insupportable. Je rappelle que lui, François Hollande, son ouverture sur le monde, il dit la France est ouverte sur le monde. En réalité, c'est l'ouverture sur la concurrence la plus déloyale en matière économique et l'ouverture vers les clandestins en matière d'immigration.
Mais sur le point spécifique de la scolarisation des enfants...
à une immigration illégale et maintenant à une immigration totalement clandestine.
Mais sur le point spécifique, Valérie Saint-Just,
de François Hollande, il est évident qu'avec Marine Le Pen, on reviendra là-dessus et nous protégerons les Français, c'est clair.
Mais sur le point spécifique de la scolarisation des enfants étrangers, qu'est-ce que vous répondez ?
Ah ben je réponds ce qu'a dit Marine Le Pen, c'est la ligne du Front National et c'est la ligne de Marine Le Pen. Il est clair qu'avec ce que nous ont imposé de supporter les socialistes et François Hollande depuis plusieurs années, avec cette immigration clandestine considérable, que des mesures de ce genre devront être prises au moins provisoirement pour rétablir l'équilibre, c'est évident.
Tout à l'heure, Marine Le Pen aussi a présenté ce qu'elle a appelé des vœux de combat aux Français. Et sans les citer nommément, elle a parlé de deux candidats, François Fillon et Emmanuel Macron. Pour elle, c'est les deux candidats les plus importants
face à elle. Pour nous, ce sont surtout deux candidats qui se ressemblent absolument, qui ont quasiment à 90, 80, 98 le même programme, les mêmes expressions, c'est sûr. Mais Marine Le Pen parle d'une année 2017 de combat. Moi, j'ai retenu une phrase de François Hollande. Je serai là pour vous protéger. Mais en fait, c'est protéger, mais malgré lui, parce que il n'a pas protégé la France quand en 2015-2016, il y a eu 200 morts à cause du terrorisme. C'est un échec complet, un échec total de sa part. Il ne peut pas dire qu'il nous a protégés et qu'il va nous protéger. Les dangers qui menacent la France en 2017 sur le plan de l'immigration clandestine, du terrorisme, sur le plan économique, sur le plan de la soumission à l'Union européenne, les dangers sont considérables et Marine Le Pen a eu raison d'appeler à une candidature de combat.
Merci beaucoup, Valérie Saint-Just. Merci beaucoup, Valérie Saint-Just, président du groupe FN au Conseil régional d'Île-de-France. Bonsoir, Christophe Castaner.
Bonsoir.
Député socialiste des Alpes de Haute-Provence, désormais soutien d'Emmanuel Macron. François Hollande, dans ses vœux, a mis en garde la gauche contre la dispersion, synonyme d'élimination. Est-ce que vous vous êtes senti visé ?
On imagine effectivement que ce message s'adressait notamment à Emmanuel Macron. Mais très clairement, la gauche, elle est dispersée depuis le début de cette mandature. Rares sont les moments où, même à l'Assemblée, on s'est retrouvé avec Europe Écologie, avec le Front de Gauche. Donc de toute façon, ce constat-là, il est celui que nous connaissons. Depuis plus de 18 mois, le candidat du Parti Socialiste, quel qu'il soit, même quand c'était François Hollande, n'avait aucune chance d'être au second tour de l'élection présidentielle. Donc très clairement, Emmanuel Macron porte un autre discours. Il se retrouve, et je me retrouve dans les propos du président, notamment quand il trace les enjeux sur les valeurs sociales, sur l'identité de la République, sur les services publics, sur la préservation de notre modèle de sécurité sociale. Mais Emmanuel veut construire une majorité. Ce qui a manqué au président de la République, c'est justement de ne pas avoir eu de majorité et de ne pas avoir pu tenir cette majorité pour mener la politique sur laquelle il voulait que nous avancions.
Mais comment vous la construirez, cette majorité ? Avec qui ?
Ah mais justement, aujourd'hui, l'objectif, c'est de rassembler au-delà des dogmes, au-delà des partis, au-delà des clichés. J'écoutais Valérie Boyer ou Valérie Saint-Just, on voit bien que pour l'un et l'autre, il suffit qu'ils arrivent, tout est nouveau. La première a oublié que François Fillon a été Premier ministre pendant 5 ans, et le second oublie l'absence totale de réalisme dans les propositions politiques de Marine Le Pen. Donc très clairement, notre objectif, c'est de construire une majorité claire qui dépasse les dogmes, qui dépasse les partis politiques et qui permette à un président de la République, Emmanuel Macron, de s'appuyer sur une majorité de députés qui s'engageront sur ces valeurs-là. Mais on refuse de s'enfermer dans les débats de clochers, dans les querelles de clochers, comme ce qu'on voit dans la primaire du Parti Socialiste dès aujourd'hui.
Vous l'aurez certainement noté, dans les vœux de Marine Le Pen, elle a cité, sans vous citer, elle a visé clairement François Fillon et Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron, on peut dire qu'aujourd'hui, il est entré dans la cour des grands ?
De toute façon, depuis quelques mois, on constate qu'Emmanuel Macron est rentré dans le trio de tête de ceux qui ont des chances. Tous les sondages montrent qu'il est le troisième homme de cette campagne présidentielle. Et notre objectif, c'est que très vite, il apparaisse comme celui qui peut représenter une vraie alternance et une volonté non pas de revanche, comme le porte Marine Le Pen ou François Fillon, mais plutôt de réforme, de construction, de mettre en place ce qu'il faut pour que la France rentre dans la modernité. Et très clairement, c'est pas le modèle thatchérien de François Fillon qui peut permettre d'avancer, ni le modèle de repli sur soi de Marine Le Pen qui nous permettra de moderniser la France comme nous en avons besoin. Mais c'est vrai que ce discours n'avait pas été, cette ambition-là n'avait pas été tranchée dans la primaire en 2011 qui a désigné François Hollande. Sa ligne politique ne l'a pas emporté, lui l'a emporté. Et donc très clairement, c'est une politique claire que nous devons construire autour d'Emmanuel Macron pour que justement il y ait une majorité et qu'on ne soit pas dans la revanche. Moi je trouve insupportable les propos que j'ai entendus, les réactions de Valérie Boyer qui ne respecte même pas la fonction présidentielle, ou Valérande Saint-Just qui nous récite le petit livre noir du Front National sans même se préoccuper de ce qui a été dit ou de la réalité politique dans laquelle nous sommes. Moi, j'ai pas envie de revanche, j'ai envie de construction. Et j'ai envie qu'il y ait un candidat au second tour qui soit Emmanuel Macron et qui puisse apporter une espérance et pas du repli sur soi.
L'objectif pour ce début d'année 2017, ce sera déjà la collecte des parrainages pour Emmanuel Macron. Vous en êtes où ?
Vous inquiétez pas de ce côté-là, les choses avancent bien. Moi, je le vois dans mon département.
Oui, mais vous en êtes où ? Vous avez des chiffres ?
Oui, on est aujourd'hui à plus de 400 élus qui se sont engagés et la lettre qu'Emmanuel Macron a
adressée au maire
principalement est arrivée la semaine dernière. Donc ne vous inquiétez pas, mi-janvier, on aura l'occasion de montrer qu'Emmanuel Macron a un soutien qui va bien au-delà des 500 parrainages nécessaires.
Et vous, personnellement, pour la primaire de la gauche, est-ce que vous comptez de près ou de loin vous y associer parce que vous êtes encore député socialiste ?
Je suis toujours député socialiste, je suis toujours membre du Parti Socialiste et mon parti organise des primaires auxquelles moi je ne participerai pas et auxquelles Emmanuel Macron, chacun le sait, ne participera pas. Tout simplement parce que la primaire ne tranche pas une ligne politique, mais elle cherche à éliminer. C'est ce qui a fait que François Fillon est devenu le candidat des Républicains parce qu'on a pris le premier marteau-piqueur pour taper sur les deux qu'on voulait éliminer sans même se préoccuper de son projet politique. Et le résultat, c'est que les Français sont en train de découvrir le projet politique de François Fillon et le rejettent à 75% des Français qui aujourd'hui le rejettent. Emmanuel Macron ne veut pas être l'otage d'aucun parti, d'aucune primaire. Il veut construire ce lien avec tous les Français, c'est ce que nous construisons au jour le jour.
Merci beaucoup Christophe Castaner d'avoir été avec nous ce soir. Alors Cyril, un petit résumé de ce qui s'est dit dans cette allocution. Et d'ailleurs, pas d'engagement ni de soutien de François Hollande à aucun candidat.
Non, aucun. C'est un président de la République qui sera à la tâche jusqu'au dernier jour, qui a annoncé que lundi, oui, dans deux jours, il se rendrait en Irak pour saluer les soldats français qui sont sur zone. Autrement, rien de surprenant. Trois temps. D'abord, le bilan de l'année 2016 avec une France qui a été particulièrement endeuillé à cause des attentats. Un autre temps sur justement les résultats économiques qui arrivent. Et puis, évidemment, il a quand même un petit peu... il s'est un petit peu engagé par rapport à la présidentielle en taclant sévèrement et François Fillon par rapport au modèle social et par rapport au service public et surtout Marine Le Pen. Et il a clairement dit, François Hollande, que si le FN venait à l'emporter, ce ne serait plus la France.
Pas de testament politique non plus comme on pouvait l'attendre.
Si, peut-être avec la COP21. Puisqu'il prévient Donald Trump en disant clairement que la France ne laissera personne, n'importe quel État, fût-il le plus grand, remettre en cause cet accord majeur de Paris.